France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire pour donner de la profondeur historique aux conclusions de la commission Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Jean Lebrun, au début de l'année, un grand spécialiste de l'histoire du catholicisme a publié un livre intitulé « On savait, mais quoi ?» La pédophilie dans l'Église depuis la Révolution.
C'est Claude Langlois, peut-être le meilleur connaisseur du catholicisme au féminin, et de Thérèse de Lisieux. Il raconte d'ailleurs un grand moment de rupture qui se produit en 2000 dans l'enceinte du Carmel de Lisieux, où a vécu Thérèse et où l'évêque du lieu vient s'épancher. Monseigneur Piquant a cru devoir conserver un rôle pastoral à un prêtre qui se disait guéri de sa pédophilie. L'évêque va être condamné à une peine avec sursis pour non-dénonciation de criminel. Il ne comprend pas que l'agression sexuelle contre les enfants devient le mal absolu, vous avez dit, pédocriminalité. Monseigneur Piquant a pourtant pratiqué la confession, il n'est pas né de la dernière pluie, il sait ce qu'est la nature humaine. Mais dans son modèle, la victime n'a pas encore de place. La tradition chrétienne, en effet, consiste à écouter le coupable à la recherche de sa rédemption. Et la culture catholique institutionnelle invite d'abord à protéger l'Église, qui, enseignant les vertus familiales et le contrôle de la sexualité, doit taire les méfaits de certains de ses serviteurs qui pourraient devenir un obstacle à son enseignement.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle ignore ses méfaits. Et Langlois étudie les dispositifs qu'elle crée en son sein pour traiter les prêtres indignes, minoritaires, dans un clergé plus fourni qu'aujourd'hui.
Faut périodiser, comme vous le disiez à l'instant avec Alain Cordier. Alors revenons à l'époque des hautes eaux, les chiffres des ordinations au lendemain de la Deuxième Guerre ont retrouvé ceux d'avant la séparation de 1905, 1400 par an. Beaucoup, à partir des années 60, choisiront de quitter le sacerdoce pour se marier. Claude Langlois observe que l'Église acceptera souvent d'organiser leur départ comme s'il lui était resté assez de ressources pour se permettre une purge. Mais la pire des difficultés va en réalité surgir chez ceux qui restent. Je me souviens de ce vieux recteur breton qui ne croyait plus à grand-chose, mais qui avait peur de ne plus pouvoir faire fumer sa soupe s'il rompait. De ce curé dynamique qui me donnait rendez-vous dans un café dissimulé derrière la gare pour me révéler son ardente vie homosexuelle. L'institution parlait de prêtres fourvoyés. Elle se demandait sincèrement que faire d'eux. Alors Claude Langlois étudie les lieux qu'elle a créés à leur intention, notamment le secours sacerdotal devenu entraide sacerdotale. Une clinique fut ainsi consacrée aux cas difficiles près de Cholet, dans une région que vous connaissez, Bruno, une région de chrétienté vive dont on attendait qu'elle eût le même effet sur les prêtres perdus que l'air de la montagne sur les tuberculeux. Mais cet établissement renonça bien vite à la psychanalyse, à beaucoup de psychothérapie, de peur de mettre en danger la foi des patients, et on préféra parier sur le réarmement moral, et on a mis donc une armure de plus sur ceux qui voulaient dissimuler les mouvements de leur corps.
En réalité, la commission Sauvé en parle, peut-être fallait-il être plus vigilant au moment du recrutement.
Oui, mais c'est que les chiffres des vocations plongèrent, et les catholiques avaient espéré une régénération par le Concile Vatican II, et c'est le contraire qui s'est produit. De 1400 ordination chaque année après la libération, on est passé à 100 et les évêques ont colmaté les brèches dans leurs dispositifs paroissiaux dans les années 80-90. Ils ont davantage négligé la question des prêtres indignes qu'à l'époque des hautes eaux. Et comment aurait-il pu fermer la porte des séminaires aux jeunes gens immatures alors qu'il y avait tant de postes à fournir?
Claude Langlois n'a pas dans son livre le rôle de présenter des solutions, c'est ce qui est demandé à la commission Sauvé.
Il note simplement que la direction de l'Église de France s'est tout à fait préparée, un peu comme la société de sauvetage en mer qui forme une flottille d'urgence pour tant de dérèglements climatiques ecclésiales. Et son capitaine, le président de la conférence épiscopale, a été nommé et préparé uniquement dans cette perspective. On va voir comment fonctionne la communication de crise.
Claude Langlois, on savait, mais quoi? C'est publié par les éditions du Seuil.
France Inter.